nous accueillons le philosophe Éric Fiat, professeur d'éthique médicale et hospitalière à l'université Paris-Est, Marne-la-Vallée. Vous êtes le co-auteur de Le devenir de l'intériorité avec Jean-Christophe Valmalette aux éditions Le Bord de l'eau, et à côté de vous, le professeur Françoise Forette, professeur de médecine spécialiste en gériatrie. Vous souhaitiez réagir au biais politique de
Frédéric Sahi. Oui, je souhaitais réagir parce que la façon dont s'est présenté en permanence ce vote des seniors me semble paradoxal. Les seniors sont dans la norme s'ils votent souvent. Eh bien, ce qu'il faut, c'est que les jeunes votent. Donc, il faut que les politiques s'adressent aux jeunes.
Intégrer davantage les classes d'âge de la jeunesse.
Bah bien sûr, de même que les mesures dont vous dites qu'elles sont en faveur des seniors, ce sont des mesures qui bénéficient aux jeunes. Ce sont dans les pays où les seniors travaillent le plus qu'il y a le moins de chômage des jeunes. Donc, faites travailler les seniors, vous augmentez le gâteau, si vous voulez, à partager, et les jeunes auront du boulot. Donc, il ne faut pas voir ça de façon inverse.
Mais peut-être que ce sont les politiques qui voient ça de manière inverse, Frédéric Saïs.
Ben, il faut qu'ils intéressent les jeunes. Ils ont un électorat qui est tout près.
C'est un cercle vicieux. Les jeunes votent moins, donc on s'adresse moins à eux.
Mais c'est l'inverse. Il faut mettre dans la tête des politiques.
Et finalement, c'est un cercle vicieux qui s'auto-alimente.
Qu'ils ont une mine absolument d'électeurs.
Bon, en attendant, la manière dont les politiques, le gouvernement en l'occurrence, réagit à cette grève des EHPAD qui a lieu aujourd'hui, est une manière que d'aucuns jugent insuffisante. 50 millions d'euros, c'est insuffisant. Vous disiez tout à l'heure, Françoise Forette, qu'il y avait des efforts à faire, que sans budget supplémentaire, on n'y arriverait pas.
Absolument.
Et aujourd'hui, eh bien, cet électoralisme, en tout cas ce clientélisme des politiques, n'est pas un couronné de succès.
Oui, mais ce qu'il faut, c'est de l'argent neuf. Il faut probablement beaucoup d'argent neuf, mais ça ne doit pas être l'argent de l'État. Hein. L'État, à mon avis, n'en peut plus. C'est pour ça que moi, je suis totalement en faveur d'une assurance autonomie obligatoire publique, parce que l'environnement démographique est excellent. On paye chacun des sommes énormes pour la retraite, on paye des sommes énormes pour la maladie, et c'est normal puisqu'on en bénéficie tous. Si vous faites une assurance dépendance pour les personnes âgées dépendantes, il n'y a que 8% de personnes dépendantes de plus de 60 ans. 8% seulement. Ça veut dire que 92% des personnes ne sont pas dépendantes. Vous auriez des cotisations minimes, à condition de commencer très tôt et que tout le monde cotise, pour un rapport qui serait important pour les personnes dépendantes.
Alors, donc ça, c'est la question budgétaire. À côté de cette question budgétaire, il y a une question d'éthique. C'est la raison pour laquelle nous vous avons invité. Éric Fiat, vous êtes philosophe, professeur d'éthique médicale. Et justement, quelle pourrait être cette éthique médicale vis-à-vis des personnes âgées ?
Ah, la belle question que vous posez là. Il me semble que c'est d'abord une éthique qui tente inlassablement de ne pas faire la morale. Je veux dire par là que, même si dans l'éthique il y a une place pour le discours déontologique, c'est-à-dire sur le discours des devoirs, vous devez respecter la dignité des personnes âgées, vous devez éprouver pour eux de la sollicitude, de l'empathie, et peut-être même ce je ne sais quoi, ce presque rien que serait l'amour, il me semble qu'une éthique médicale sérieuse est une éthique qui se refuse à faire la morale aux personnes qui s'occupent des plus dépendants des dépendants. Et puis au-delà, il me semble que c'est une éthique qui essaie d'affirmer, là aussi inlassablement, que la vulnérabilité, la dépendance, la vieillesse font partie de la condition humaine. Autrement dit, il s'agit de s'opposer au cri de Don Diègue, au rage, au désespoir, aux vieillesses ennemies. N'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie ? Notre époque n'est-elle pas une époque qui a tendance à être, comme Don Diègue, hantée par l'idée sans laquelle la vieillesse serait un naufrage ? Voilà. À brûle pour point, car mon pourpoint brûle, au débeauté, car je viens juste d'enlever mes bottes, la réponse que je ferai à cette question est évidemment immense.
Le mot senior, qu'est-ce qu'il vous inspire en tant que philosophe, Éric Fiat ?
Pas beaucoup de sympathie. Je veux dire par là qu'il me semble que notre société a un regard étonnamment clivé sur la vieillesse, puisqu'on nous présente soit d'une part, alors en effet, des vieux qui ne sont pas vieux, qu'on appelle des seniors. Me reviennent les couvertures de certains magazines pour personnes âgées où des seniors nous sourient de leurs dents blanches. Enfin, alors voilà comment il faudrait vieillir pour être un senior. Le bien vieillir, ce serait le cher, le magnifique Jean d'Ormesson. Ou bien, on nous présente la vieillesse comme un naufrage qui conduit à une vie qui n'est plus une vie, à une vie de légumes. La superbe d'un côté, la déchéance d'autre part. Il me semble que la plupart des personnes âgées, je parle sous le contrôle de Madame Forêt, ne vont pas aussi bien que ces magnifiques seniors et vont tout de même mieux que ces terribles légumes. Voilà.
Mais il y a une sorte de novlangue qui vous dérange, Éric Fiat, dans le fait d'appeler les personnes âgées seniors. Oui. C'est une façon trop technocratique.
Oui, bon, la novlangue, j'aime pas, mais ça, tout le monde s'en fiche. Mais je veux dire par là que il me semble qu'il faut se méfier de ce pharisaïsme langagier qui ferait que, eh bien, on pourrait croire avoir fait ce qu'il faut pour les fous, parce qu'on les appelle personnes en situation de handicap psychique. On pourrait croire qu'on traite mieux les caissières parce qu'on les appelle hôtesses de caisse. Bon, je me méfie de ce pharisaïsme langagier. Vous savez, le Christ passe son temps à lutter contre cela. Qu'importe, ça sert à rien d'enrubanner le langage, d'endimancher le langage si le cœur n'y est pas. Et à mon avis, la nomination vraiment importante, c'est celle que les personnes emploient à leur propre sujet. C'est-à-dire que certaines personnes détesteraient qu'on les dise « vieille ». Pour d'autres, mais pourquoi m'appelez-vous senior ou aîné ? Je suis vieille, un point, c'est tout. Donc je méfie de la novlangue et de cette manière que notre société a d'étiqueter.
Voilà, vous dites enrubaner le langage, il y a aussi la réalité. Et cette réalité, elle se dévoile par exemple à la faveur d'Un pied sur terre, cette émission de France Culture. On a choisi un second extrait de cette émission qui était consacrée aux EHPAD. Écoutez-le.
Le problème dans cette maison de retraite, dans cette unité Alzheimer, c'était les douches, en fait, qui étaient plutôt spartiates. C'est-à-dire que c'était un bouton poussoir pour déclencher la douche. Et de pouvoir avoir de l'eau chaude ou de l'eau froide à bonne température, il fallait se mettre à quatre pattes dessous le lavabo et toucher au variateur. Sauf que le variateur, si on est un petit peu trop à gauche, et ben, l'eau était glaciale, un peu trop à droite, l'eau était brûlante. Sachant que la personne, le résident, était sous la douche à ce moment-là. Donc il pouvait recevoir de l'eau chaude ou de l'eau froide. Et donc ce monsieur, il faut que je suis à quatre pattes, le monsieur est sous la douche, à 2 mètres. Comment veux-tu régler suffisamment la température pour lui, quoi ? Et puis il a commencé à hurler, à m'engueuler, à m'insulter. Et du coup j'ai laissé froid, je pouvais pas faire autrement. Je revois encore son regard de me dire, mais qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu me fais ça ? J'ai rien fait de mal, je suis fragile, pourquoi tu t'en prends à moi ? Je suis vieux, j'étais une autre personne en fait, j'étais un bourreau.
Un reportage de Pascal Pascariello, un reportage extrêmement poignant. Professeur Forêt, qu'en pensez-vous ?
Je pense que ça c'est rare. Hein. Autant il n'y a pas assez de personnel, ça c'est clair, il en faudrait davantage, autant la majorité des EHPAD maintenant sont bien équipés. Il n'y a pas de douche où il faut aller se mettre sous le lavabo pour régler un variateur qui n'existe pas. Ça c'est pas que c'est pas vrai, c'est que ce sont des situations exceptionnelles. Mais il n'empêche que je comprends la douleur du soignant. Qui vient d'arroser la personne d'eau froide, d'eau chaude, et qui se trouve devant une personne absolument ahurie de ce qui lui arrive. On comprend cette souffrance. Mais c'est rare quand il s'agit uniquement de matériel. La majorité des EHPAD sont bien équipés. Et ce qu'il faut dire quand même, c'est que par rapport à il y a 30 ans, ou même 50 ans, il y a quand même des progrès énormes dans les EHPAD. Énorme, énorme.
Moi, qu'est-ce que vous avez
J'ai connu, moi, l'hôpital Charlefoy, où il y avait ce qu'on appelait des longs séjours, qui étaient en fait des EHPAD à l'époque, où il y avait, dans des grandes salles, 40 lits, 4 lavabos. Un point, c'est tout pour assurer l'hygiène. Ça a heureusement disparu. Et les personnels, je disais qu'il y avait une insuffisance de formation à l'heure actuelle, ils sont quand même beaucoup mieux formés qu'ils n'étaient autrefois. Les progrès sont là. Mais strictement insuffisant, et on le voit avec le drame actuel des EHPAD.
Éric Fiat, votre réaction en tant que philosophe ?
Je me souviens de ces pages magnifiques de Christian Bobin dans L'Homme Joie, consacré aux visites qu'il faisait à son père dans un EHPAD. Il dit que cette maison est digne de figurer au patrimoine de l'inhumanité. Alors, oui. Certains EHPAD sont des lieux inhumains, mais mon espérance, l'espérance que je place dans la grève d'aujourd'hui, dans le fait qu'enfin on parle de ce genre de choses, mon espérance, c'est cette solidarité qui se crée entre les aidants et les aidés, pour employer la novlangue, comme vous disiez. La grande souffrance des aides-soignantes aujourd'hui, c'est une souffrance pour une autre souffrance. Elles ont, pour ces personnes âgées, la colère qu'elles n'ont plus. Et donc, comme François Sorède, je pense que il y a eu beaucoup de progrès, que cependant, oui, se fomente du matin au soir, et plus encore du soir au matin, des atteintes à la dignité humaine, dont, et c'est ça qui est absolument passionnant, dont parfois les auteurs eux-mêmes souffrent terriblement.
Quelles sont les qualités requises, selon vous, Éric Fiat, pour travailler dans un établissement accueillant des personnes âgées? On a parlé, par exemple, de philosophie du care, du soin. Est-ce que tout cela vous parle? Vous faites une petite grimace, je crois, en tout cas, la discerner.
Je réponds à des questions. Vous questionnez un philosophe et je vous réponds non pas en poète, mais en citant les poètes, parce que je crois qu'ils sont au plus près de la réalité. Après Bobin, Jacotet, le grand poète Philippe Jacotet, écrit dans un recueil qui s'appelle, si ma mémoire est bonne, « À la lumière d'hiver ». Ce titre est déjà tout un programme. Ça prouve que même au moment de la fin de vie, en hiver, une lumière est encore possible. Et lui aussi décrit ce qu'il éprouve en voyant ce qu'est devenu son père. Si ma mémoire est bonne, ça ressemble à ça. Lorsque le père est emmené si loin, faible enfant son, dans le lit de nouveau trop grand, sans même le secours des larmes. Je cherche ce qui peut le suivre. Ni la plus belle des pensées, ni la plus belle des pensées, ni la plus pure des images. Simplement, le linge et l'eau changés, la main qui veille et le cœur endurant. Le linge et l'eau changés, la main qui veille et le cœur endurant. Si je cite ce poème, c'est parce que là encore, je refuse cette posture du philosophe qui viendrait dire à ceux qui s'occupent des vieux qui ils doivent être. Je crois que c'est l'empirie qui est la meilleure conseillère. C'est au contact, justement, de ces personnes âgées que s'invente quelque chose que moi, je me refuse à nommer le prendre soin ou le care ou chose de ce genre. Il s'agit d'écouter ce que leur pauvre main raconte, comme disait Brel. Et quand on... Alors je crois, si vous voulez, que ce n'est pas parce qu'on est entré dans ce métier-là par vocation qu'on le fera toujours bien, et ce n'est pas parce qu'on est entré dans ce métier par hasard qu'on le fera toujours mal. Parce qu'une vocation, ça peut se perdre. Et je me souviens d'une élève que j'avais eue quand j'enseignais en terminale qui avait la vocation de s'occuper des petits vieux. Elle en parlait avec certains lyrismes. Rien de plus beau que ces petites pommes ridées. J'adorais ma grand-mère. Et elle s'est engagée dans ce métier-là. Au bout de quelques années, la vocation s'est transformée en métier, puis en turbin. Et quand on perd la vocation, on n'est plus dangereux que si on l'a jamais eue. Et je connais en revanche, bah oui, d'anciens élèves qui voulaient faire toute autre chose que AMP, aide médico-psychologique ou assistante sociale, aide-soignante, pardon. Et puis, qui ont, au contact des vieux, découvert en eux des capacités d'attention absolument merveilleuses.
Professeur Forêt.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Éric Fiat, mais cependant, je pense qu'il y a des domaines qu'il faut avoir quand on veut faire ce métier, et c'est pas toujours le cas, parce qu'on le fait quelquefois par hasard. D'abord, il faut être en accord avec son propre vieillissement. Parce que on vous renvoie, si vous voulez, les personnes très âgées dépendantes renvoient une image qui fait peur. Si on n'est pas d'accord avec l'idée de vieillir et de vieillir un jour peut-être soi-même dépendant, c'est très très difficile de travailler dans ces milieux. Ensuite, il faut avoir quand même une certaine empathie vis-à-vis des gens, si vous voulez. Il y a des personnes qui ne sont pas empathiques de nature, que ce soit vis-à-vis des vieux ou vis-à-vis des personnes jeunes. Et puis troisièmement, et ça c'est vrai pour le médecin, c'est vrai pour l'infirmière, c'est vrai pour l'aide-soignante, il ne faut pas avoir peur de toucher. Il ne faut pas avoir la peur de toucher l'autre, parce que c'est le métier qui veut ça. Et quand on n'a pas ce type de qualité, si on est, entre guillemets, dégoûté par le toucher de l'autre, c'est très très difficile de faire ce métier. Alors quelquefois certains le font, mais ils prennent sur eux, et je pense que c'est difficile.
Il y a d'ailleurs, Éric Fiat, d'un côté les qualités requises pour travailler dans un EHPAD, de l'autre la manière dont la philosophie, la poésie, vous aimez bien la poésie, appréhende le fait de vieillir. Je sais pas, on peut penser à Hugo, l'art d'être grand-père, on ne m'ôtera pas le souvenir de Jeanne. Ce type de poème également consacré à la vieillesse et au fait de vieillir, qu'est-ce que la philosophie nous enseigne à cet égard?
Au sujet du vieillissement, elle nous apprend que la vieillesse s'inscrit dans la logique métamorphique de la vie, car nous nous transformons. Un objet ne vieillit pas, il s'use. Les objets n'ont pas d'âge, ils ont une date. Et donc, la philosophie nous apprend d'abord à être attentif à cette logique métamorphique de la vie. Elle nous apprend aussi que, bien sûr, toute métamorphose n'est pas forcément joyeuse, mais que les altérations, les corruptions, les diminutions enfin apportées par le vieillissement peuvent être contemporains, je pense, de quelque chose comme la découverte d'une nouvelle lumière. Bobin qui dit j'ai parcouru cette EHPAD comme un lieu digne de figurer au patrimoine de l'inhumanité, ajoute « Je n'ai jamais vu le visage de mon père s'éteindre ».
Mais il y a aussi quand même dans la philosophie quelque chose qui peut faire plus que nous consoler, puisque c'est l'un des rares domaines où finalement le fait d'être âgé est une bonne chose. Un jeune philosophe, ça n'existe pas vraiment, Eric Fiat, même si vous n'êtes pas très âgé, Kant a écrit après 60 ans la critique de la raison pure. C'est un métier que l'on fait bien quand on est vieux, non?
Qu'est-ce que vous en pensez? Là encore, vous posez aux dévotés des questions absolument, absolument immenses. Moi, j'ai envie cependant d'être d'accord avec vous, en nuançant quand même ce propos, parce qu'il me semble qu'il y a deux âges où on peut et même on doit être grand philosophe. Parce que la philosophie est une chose trop sérieuse pour la laisser aux universitaires, aux professeurs, comme vous disiez. C'est sans doute en effet la vieillesse, une sorte de décantation permet d'être disponible à l'essentiel. C'est ça la philosophie, être disponible à l'essentiel. Mais aussi peut-être la jeunesse. Parce qu'il me semble que les enfants sont d'extraordinaires philosophes. Les enfants à l'âge des pourquoi. Pourquoi il fait nuit? Pourquoi je dois aller me coucher? Pourquoi c'est rouge? Puis, des fois, les enfants posent la question de l'admitienne, la question philosophique fondamentale. Pourquoi y a-t-il quelque chose et non pas rien? Alors, rassurez-vous, même mes enfants ne m'ont pas un jour demandé mes pères. Pourquoi y a-t-il de l'être et non point du néant? Mais je me souviens que...
Non, mais enfin, les enfants s'interrogent souvent sur la vieillesse.
Mais bien sûr. Et alors, les enfants... Mais pourquoi quoi? Ils viennent poser la question fondamentale. Pourquoi? Alors, moi, je pense que pour être philosophe, il faut être hors d'âge. Et j'ai fait une découverte qui va peut-être vous intéresser. Je croyais qu'un whisky hors d'âge était un whisky très très vieux. Eh bien non, un whisky hors d'âge, c'est un whisky dans lequel on met du 18 ans, mais aussi peut-être du 5 ans, parce que ça fait un équilibre. Donc je ne crois pas qu'il y ait d'âge pour la philosophie. Il faut être hors d'âge, c'est-à-dire qu'il faut avoir tous les âges. Il faut être à la fois l'enfant qui s'étonne et le vieillard qui s'apaise.
Et pourtant, le whisky, comme la philosophie, a une qualité supplémentaire lorsqu'il vieillit. Françoise Forêt, il y a également, malheureusement, des questions métaphysiques à aborder lorsqu'on travaille en EHPAD, parce qu'on accompagne bien souvent les individus, les personnes, jusque dans leurs derniers moments. Et là aussi, ça requiert autant une formation qu'une humanité. Qu'est-ce que vous avez constaté depuis que vous travaillez dans ce domaine?
Je pense que c'est l'aspect le plus cruel de certains EHPAD et de certains longs séjours. C'est que lorsqu'il n'y a pas de formation du personnel, lorsqu'on n'admet pas très largement les familles dans les EHPAD, les patients, les personnes risquent de mourir tout seuls. Et ça, c'est probablement le plus tragique de la mort. Alors, les personnels formés, finalement, sont assez habitués au fait que quand on travaille avec des personnes très âgées, la mort survient beaucoup plus fréquemment, j'allais dire heureusement, que si on travaille dans un service de pédiatrie. Mais l'ajout d'équipes de soins palliatifs, qui, elles, sont très très bien formées de façon générale, dès que quelqu'un ne se sent pas bien, est en général très très bon pour l'ensemble des personnels et bien évidemment pour la personne qui se prépare à ce très grand passage. Mais moi, j'ai été heurtée tout au long de ma vie professionnelle par ces patients que l'on savait mourir seuls la nuit, parce que c'est souvent la nuit et que, comme je vous disais tout à l'heure, par exemple, dans les EHPAD, il n'y a pas d'infirmière. Alors, les aides-soignantes peuvent aider, peuvent tenir la main. Mais comment voulez-vous tenir la main quand vous êtes seul pour 40 personnes et que vous devez faire 3 changes chaque nuit? Donc vous voyez, la situation est terrible et c'est véritablement un passage qui touche au tragique très souvent.
Éric Fiat.
Je suis d'accord, mais je voudrais apporter 2 petites nuances à votre propos, cher collègue. À propos de mourir seul, des études assez récentes, alors qui viennent plutôt du monde des soins palliatifs que du monde de la gérontologie, montrent qu'il est faux de dire que mourir seul est toujours une catastrophe. Car on s'est rendu compte que certains hommes se débrouillent pour mourir seul. Parce que il y a quelque chose, on ne veut pas imposer à l'autre ce moment terrible et ce moment suprême. Donc je vous trouve un peu dogmatique en disant que mourir seul est toujours une catastrophe. Très étonnamment, on a vu qu'il y avait certaines personnes, on ne comprenait pas. Non, alors voilà, l'approche est épuisée. On dit mais rentrez chez vous. Mais non, je ne veux pas qu'il meure seul. Mais non, rentrez chez vous. Ça ne sera pas cette nuit. Et étrangement, à peine est-elle partie qu'il meurt. Alors je ne dis pas qu'on décide de mourir, évidemment. Mais je crois qu'il faut nuancer cette affirmation selon laquelle mourir seul est toujours une catastrophe. Pour certains hommes, c'est plutôt un bien.
Je pense qu'on décide de mourir quand même en grande partie. En très très grande partie. Et vous avez raison de dire que le dernier passage peut
on
vouloir
seul,
se faire
Pascal.
Seul. Oui. Peut vouloir se faire seul. Mais encore faut-il avoir dit au revoir.
Je suis tout à fait d'accord. Et l'autre nuance que je voulais apporter à votre propos, que je partage, c'est quand vous avez dit qu'il y avait des natures qui n'étaient pas empathiques. Là, je trouve que vous condamnez certains êtres humains. Je pense que si on laisse de côté, en effet, certaines graves pathologies, peut-être relevant de la perversion ou de la psychose, je pense que tout être humain est doué d'une plasticité. Et donc, dire d'un être humain qu'il n'est pas empathique, non. Il y a une nature, mais il y a aussi ce que le vieil Aristote appelle une seconde nature. Hein. On peut n'avoir pas une nature très empathique et progressivement, la développer. Cette espérance-là.
Oui, mais il y a quand même des personnes qui sont profondément intéressées d'emblée par l'autre, par le commerce avec l'autre, et d'autres personnes qui préfèrent une autre activité où elles ne sont pas confrontées éventuellement avec les autres. J'ai été surprise de savoir que parmi les revendications de personnel, que ce soit à la poste ou ailleurs, la grande revendication, c'est de dire moi, mon métier est épouvantable parce que je suis en contact avec le client. Alors qu'au contraire, le contact avec les personnes est une richesse pour d'autres. Je crois que, j'ai tort de dire, pas empathique du tout, mais on a le goût de l'autre ou on l'a moins, parce qu'on a le goût d'autre chose, quelquefois de la philosophie.
Quand on a un goût extrême, une passion pour l'autre, on prend le risque d'être déçu par l'autre. Et finalement, je pense que la littérature nous l'apprend, Alceste, devenu misanthrope, eh bien, l'est devenu parce qu'il attendait tellement des hommes, été tellement déçu qu'il préfère se retirer au désert. Donc je crois qu'il faut affirmer la plasticité des hommes. Alors non seulement de ceux qui aident, mais aussi des vieillards, parce qu'il faut voir que même jusqu'au bout, une plasticité, tant qu'il y a de la vie, il y a du possible. Je ne dirais pas que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, car certaines fins de vie vraiment ont quelque chose de désespérant. Mais tant qu'il y a de la vie, il y a du possible. Heidegger a écrit au sujet de la mort une formule un peu effrayante. La mort, c'est la possibilité de l'impossible et l'impossibilité du possible. Alors ça a l'air très difficile, surtout qu'en allemand, ça se dit au minimum « der Tod ist der Unmöglichkeit, der Möglichkeit und der Möglichkeit, der Unmöglichkeit ». Voilà le genre de formule qui rend fou.
Que signifie cette formule ?
Ça signifie quoi ? Ça signifie que la mort, c'est l'impossibilité du possible. Mais pourquoi ? Parce que tant qu'il y a de la vie, il y a du possible. Et quand il y a de la mort, il n'y en aura plus. Moi qui suis vivant, j'ai beaucoup de possibilités devant moi. J'ai la possibilité de rester assis ou de me lever, d'essayer de parler une belle langue ou de dire des gros mots. J'ai la possibilité de continuer à parler ou de me taire. Je crois qu'il va falloir que je me taise bientôt. Ben, quand je serai mort, je n'aurai plus aucune de ces possibilités-là. La mort, c'est l'impossibilité du possible. Car quand je serai mort, je n'aurai plus la possibilité de parler ou de me taire, d'être courtois ou discourtois, de me lever ou d'être assis. Alors bien sûr, en fin de vie, certaines pathologies limitent un peu l'éventail du possible. Et si en fin de vie, je suis aphasique, je n'aurai plus la possibilité de parler ou de me taire. Si en fin de vie, je suis tétraplégique, je n'aurai plus la possibilité de me lever ou de rester assis. Si en fin de vie, je suis désinhibé, vous savez, ou que j'ai une maladie qui fait dire des gros mots, le fronto-temporal, eh bien, j'aurai plus la possibilité d'être courtois ou discourtois. Cependant, tant qu'il y a de la vie, il y a du possible. Et veiller sur ce possible, c'est un devoir d'humanité.
Merci Éric Fiat, professeur Forêt. On a compris aussi qu'être vivant, c'était s'indigner notamment du manque de moyens dans les EHPAD, puisque vous avez quand même insisté sur le fait qu'on ne s'en sortirait pas sans afflux d'argent frais.
Oui. Mais il faut redire aussi que seuls 8% des personnes de plus de 60 ans sont dépendantes. Hein. Il ne faut pas croire que finir sa vie dans un EHPAD est la norme. Hein, c'est rare. Il faut que chacun le sache. Et c'est pour ça qu'on peut faire beaucoup. Parce que justement, c'est rare.
Il faut s'indigner, en effet. Ma peur, c'est que le scandale retombe. Le propre du scandale, c'est qu'il retombe. Aujourd'hui, la France se scandalise. Et c'est merveilleux du sort qu'on fait aux aides-soignantes et par dérivation aux personnes âgées. Ma peur, c'est que le scandale retombe. Là, il faudrait qu'il ne retombât pas trop vite.
Merci à tous les deux, professeur Forette et professeur Fiat.